Le nombre de pompiers qui souffrent du syndrome post-traumatique, dis-je bien, ou de stress post-traumatique est en croissance. C'est Marie-Laurence Delaney, la journaliste qui nous apprend cela. Pour en discuter, Richard Lafortune, vice-président de l'Association des pompiers de la métropole. C'est comme votre syndicat, ça, aux pompiers, monsieur Lafortune, hein?
Tout à fait.
Bon. Alors là, dites-nous, là, parce que là, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris de... En fait, je ne sais pas si vous m'avez entendu, je suis en train de me demander, est-ce que le travail de premier répondant est devenu aussi, sinon même peut-être plus important dans le quotidien des pompiers que le combat contre les feux?
Vous avez tout à fait raison. Si on prend juste les statistiques 2017 officielles du service d'incendie de Montréal, on parle d'environ 131 000 appels sur le territoire de l'agglomération de Montréal, dont environ 85 000 dédiés aux appels de type premier répondant, donc les appels à caractère médicaux.
Bien, c'est ça, c'est plus que la moitié.
Tout à fait.
Et là, ce qui est frappant, c'est que là, tu as des pompiers premier répondant qui témoignent du fait que c'est dur, c'est très dur mentalement de devoir, par exemple, trouver quelqu'un qui s'est suicidé, décrocher un corps de quelqu'un qui s'est jeté devant le métro, essayer de réanimer un enfant. Il y en a qui sont blessés mentalement par ça, là, par ces images, par ces moments.
Absolument. Vous mentionnez très bien, d'ailleurs. Si on recule un peu, les pompiers de Montréal, on est tout à fait préparés à répondre à tout type d'interventions d'urgence dans lesquelles on est formés et aptes à agir. Sommes-nous bien préparés mentalement à toutes les images dont vous avez mentionnées? Force est d'admettre que pour certains, la réponse est non.
La formation de l'école des pompiers n'a pas été ajustée en fonction de ce nouveau travail? Parce que faut le dire, à Montréal, si je ne m'abuse, c'est 2007. Depuis 2007, vous êtes premier répondant, hein? Je ne me trompe pas?
C'est-à-dire que pré-fusion municipale, il y avait certaines municipalités de banlieue qui offraient déjà le service dans l'ouest de l'île.
D'accord.
À l'avènement de la fusion municipale, des négociations sont engagées pour une première convention collective et on s'est entendu, l'association et le service d'incendie de Montréal, à instaurer dès 2007 le service de premier répondant dans la totalité de l'agglomération de l'île de Montréal.
Est-ce que tous les pompiers sont premiers répondants maintenant?
Sur les 2000, presque 400 pompiers à Montréal, vous retrouvez 1725 pompiers certifiés et aptes à agir à titre de premier répondant.
Ça veut dire qu'ils ont subi une formation, c'est ça?
Une formation, ils ont acquéri des connaissances pendant 60 heures pour agir à titre de premier répondant. Et naturellement, ils doivent acquérir de l'expérience sur le terrain depuis... on pourrait dire que le système est à maturité depuis 2010, où tous les casernes offrent le service de premier répondant.
OK. Mais 60 heures, c'est vraiment pas beaucoup, hein?
Il faut comprendre, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis il faut comprendre que le cas du premier répondant, c'est d'appliquer des protocoles très précis. C'est un geste délégué par Urgence Santé. Donc, nous, on ne doit qu'à appliquer des protocoles très précis.
En attendant l'arrivée des
paramédics. Donc, soutenir, stabiliser et probablement souvent sauver la vie ou ramener à la vie certaines personnes. Oui, 60 heures, dans 60 heures-là est couvert ce qu'on a besoin comme connaissance de base pour agir. Ouais. Et naturellement, par la suite, à chaque année, on est appelé à être recertifié, là, chacun des pompiers certifié et recertifié chaque année.
Là, ma question va peut-être sembler ridicule aux oreilles de certains auditeurs, mais quand on voit un camion sortir d'une caserne, qu'on le voit circuler, là,
oui.
Est-ce que, dans certains cas, ils sont sur un appel de premier répondant ou sur un appel de premier répondant, ça va être des véhicules plus petits?
Non, c'est quand on voit un véhicule qu'on va dire, on va appeler de type autopompe, c'est-à-dire que vous n'avez pas de parc-échelle sur le véhicule.
Oui, le camion de pompier standard.
Donc, camion de pompier standard, l'autopompe, c'est ce véhicule-là qui est dédié aux appels premier répondant. Donc, un gros porteur. Là. Pourquoi? La raison est simple, c'est opérationnellement parlant, répondre à toutes les missions possibles à part d'un même véhicule, c'est le choix qui est fait actuellement.
C'est ça. Sinon, ça vous oblige. En fait, ça nous obligerait comme contribuables à vous fournir des véhicules plus petits.
Exact.
Oui, voilà.
Exact.
Ce qui entraînerait d'autres dépenses. Mais revenons à la question. Oui. Donc, la formation de base à l'école des pompiers, là, actuellement, elle n'a pas vraiment été modifiée pour tenir compte du nouveau rôle qui est le vôtre. Vous êtes formé comme pompier et après ça, vous recevez un 60 heures de formation pour être premier répondant. Je comprends bien.
C'est-à-dire que, bon, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est qu'en date d'aujourd'hui, tout nouveau pompier, tout nouveau cadet pompier ou aspirant pompier est formé premier répondant à même l'école de pompiers.
Ah.
Donc, reçoit tout ce qu'il a besoin de savoir pour intervenir auprès des patients et assurer un encadrement clinique. Quand on parle du 60 heures, c'était à l'implantation sur le territoire de la ville de Montréal. Étant donné que ça n'avait pas existé dans mon passé, on a dû m'adapter à la nouvelle réalité là, du protocole et de l'intervention préhospitalière.
Donc, éventuellement, tous les pompiers auront reçu la formation de base à l'école des pompiers au fur et à mesure où les nouveaux vont rentrer
dans le
service.
Depuis environ, je vous dirais, 2009, si ma mémoire est bonne, on pourrait dire que tout aspirant pompier a la formation de base.
Vous, là, vous êtes toujours pompier, hein?
Toujours, oui, toujours actif. Je suis dans ma 29e année.
29e. Est-ce que vous en avez vécu des situations difficiles comme premier répondant?
Tous les pompiers subissent ou voient des situations difficiles comme premier répondant, ne serait-ce que dans notre propre métier qui était à mon époque, c'était combattre des incendies. Même dans ces situations-là, on en rencontre des images traumatisantes. Et naturellement, le premier répondant est venu catalyser là, l'exposition là, de chacun d'entre nous à tous ces événements-là. Mais effectivement, chaque pompier a ses propres histoires.
Est-ce que vous voulez nous en raconter une qui vous est arrivée? Ou est-ce que
non,
c'est...
pas vraiment. Non, c'est disons que, comment je pourrais vous expliquer ça? Chaque pompier, puis c'est à peu près le but de l'exercice d'aujourd'hui, et depuis d'ailleurs quelques semaines, c'est qu'on tente de trouver des moyens auprès de l'État et auprès de la population pour s'assurer que notre tête oublie ce que nos yeux ont vu. Donc, c'est pour ça qu'un pompier va vous parler de certains faits d'armes qui vont être beaucoup plus les incendies de bâtiments, son aspiration depuis qu'il était tout petit, alors que parler de la détresse humaine, c'est pas quelque chose avec lequel on est très à l'aise, honnêtement.
Je comprends.
D'ailleurs, étant peut-être minimalement préparé à intervenir, OK, mais pas vraiment préparé à la journée où ce que notre armure va être percée, c'est pas dans la vision ou la culture du pompier. Pompier, lorsqu'on nous voyait en habit, on intervient, on a notre armure, on est focalisé sur ce qu'on a à faire. Mais quand cette armure-là vient qu'à être percée, ben là, ça rend les choses difficiles. Et d'en parler, d'ailleurs, vous avez vu ce week-end, un de nos membres a décidé de s'ouvrir.
Là, je vais lire, OK?
Oui.
Je vais lire ce qu'il a dit. Là. Ça, c'est un pompier qui parle.
«
Je ne compte plus combien de pendus j'ai décrochés, combien de personnes âgées dans des conditions atroces étaient entre la vie et la mort. Dans la même semaine, j'ai assisté une femme à mettre au monde un enfant. J'ai réanimé un enfant qui était dans son berceau et il est décédé. J'ai aussi trouvé une personne qui était en train de se faire manger par les chiens. »
Oui.
Ça, c'est Marie-Laurence Delaney qui rapporte
exact.
Ça. Ouais, là, je vais dire, méchante semaine pour le
Puis
monsieur.
Puis on n'est plus dans le monde des hypothèses. On est vraiment dans la réalité.
Alors, ils ont besoin d'aide, dans le fond. Vos
Absolument.
Pompiers, vous lancez cet appel-là, dans le fond, pour sensibiliser aussi la commission, ce qu'on appelle la CNESST. Ce qu'on appelait dans le temps la CSST,
exact.
Pour qu'ils prennent davantage en considération les dommages infligés aux pompiers dans le cadre de leur fonction de premier répondant et les séquelles qu'ils gardent au niveau de la santé mentale.
Ce que l'on appelle la blessure de stress opérationnel, c'est ce qu'on veut faire reconnaître aujourd'hui. Comme vous savez, depuis quelques années, on a fait des débats, on a approché justement la CNSST et les différents ministres pour en arriver à modifier les lois au Québec. Et la CNSST avait accepté en 2016 de modifier sa politique administrative de reconnaissance, d'admission pour la reconnaissance de maladies professionnelles qui étaient les cancers.
Mmh.
Et aujourd'hui même, le président de l'association était à Québec pour tenter de rencontrer le ministre et son équipe.
Le ministre du Travail. Monsieur Boulay, oui.
Tout à fait. Et pour en arriver à développer encore plus certaines maladies à titre de reconnaissance et intégrer naturellement tout ce qui s'appelle les blessures de stress opérationnel.
En tout cas, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas vu d'études là-dessus. Je ne me prétends pas expert, mais le fait que vous soyez devenu premier répondant, je suis certain que ça fait une immense différence. Je serais curieux de savoir combien de vies vous avez sauvées depuis que vous êtes premier répondant. Ça doit être des centaines, des milliers de vies.
Les statistiques nous parlent d'environ 60 à 70 vies sauvées par année par les pompiers de Montréal.
Je le crois.
Que d'être... Tu sais, c'est une grande chaîne de survie. Hein, quand un patient ou un citoyen, une citoyenne appelle le 911, 911 est en problème. Donc, on est un des maillons les plus importants, c'est-à-dire qu'on est les premiers, de par notre présence sur le territoire,
c'est ce que j'allais dire.
Avec 3 minutes et demie, 4 minutes et demie en moyenne de temps de réponse, on est là pour sauver des vies.
Ben, saluez vos pompiers, monsieur Lafortune. J'ai beaucoup de messages d'ailleurs. J'ai tellement de respect pour les pompiers. Ça, c'est des auditeurs qui écrivent. Là. Je compatis avec les pompiers. J'en ai été un dans une petite municipalité. Un autre me dit « Chapeau aux pompiers, merci ». Vous êtes très apprécié, vous êtes très aimé.
Oui, puis on est conscient de ça, on est privilégié. Chacun des pompiers, je parle en leur nom, les pompières de Montréal.
Vous dites, ça fait deux fois, vous dites pompières. On en a, là, des femmes
pompières.
Hein?
Absolument. On a une trentaine de pompières à Montréal, exact. Donc, ils font un travail absolument formidable, elles aussi. Naturellement, on intervient, on est là pour intervenir. On n'a pas travaillé un seul jour de notre vie, mais comme je vous ai dit tantôt, on veut trouver des moyens, on veut être reconnu pour que notre tête oublie ce que nos yeux ont vu.
C'est une belle formule, même si elle décrit une réalité qui n'est pas facile. Richard Lafortune, vice-président de l'Association des pompiers donc de Montréal.
Oui. Hein,
c'est comme ça qu'on dit ça.
Tout à fait.
Saluez-les. Merci. Bonne chance.
Bonne journée.
Dans un instant, l'international.